France Inter. Leur philo. Bienvenue dans Leur philo. Lilian Allôme à la réalisation, Chantal Le Montagnier à la préparation, Djoubaka au choix des disques et Laurent Baudouin à la console.
Leur philo. Patricia Martin, sur France Inter.
À l'ouverture du procès, Gisèle Pellicot, sur qui repose la responsabilité de décider si les audiences sont publiques ou pas, avait expliqué qu'elle souhaitait que ce qu'elle a vécu soit connu, qu'elle n'avait pas à se cacher, que les violences sexuelles s'honorent toujours du silence et qu'elle ne souhaitait pas rester enfermée seule dans la salle d'audience avec les personnes qui l'ont agressée. Hier encore, avant la diffusion des premières images intimes du dossier, Gisèle Pellicot a renouvelé son souhait que les débats restent publics, mais pas sur la place publique, a-t-elle nuancé, en demandant cette fois que la salle de retransmission soit fermée. Mais hier soir, après le visionnage de cette trentaine de photos particulièrement intimes et dérangeantes, des avocats de la défense l'ont de nouveau exhorté à revenir sur sa position et à demander un huis clos total, invoquant la dignité des débats, avec en arrière-pensée bien sûr la crainte que les agissements de leurs clients soient vus et connus de tous à travers les comptes rendus d'audience des journalistes présents. Cette question du huis clos sera donc reposée par le président juste avant la diffusion des premières images des viols, aujourd'hui ou demain.
C'était Jean-Philippe Deniaud de France Inter. Jamais dans le cadre du procès Pellicot, en tout cas, cette phrase du philosophe Emmanuel Kant n'aura été aussi vraie. Prendre du plaisir sexuel, c'est considérer l'autre comme un objet et c'est contraire au droit de l'humanité. Le procès Pellicot pose une foule de questions et dévoile une part bien obscure de l'humanité, justement. Manon Garcia est philosophe et elle publie un livre intitulé « Vivre avec les hommes, réflexion sur le procès Pellicot », un livre publié aux éditions Climat. Elle avait auparavant écrit deux essais, « On ne naît pas soumise, on le devient » et « La conversation des sexes », elle enseigne à la Freie Universität de Berlin. Louise Chenevière, elle est écrivaine, chanteuse, elle touche aussi sa bille en philo, puisqu'elle est titulaire d'un master de philo. Son dernier livre en date pour Britney, publié chez POL, donc, et puis avant cela, il y a eu un premier livre, elle avait 26 ans, intitulé « Comme la chienne » et deux ans plus tard, « Mausolée ». Elles sont toutes les deux les invitées de Leur philo, vous l'aurez compris. Manon Garcia, vous avez donc suivi les audiences du procès Pellicot à l'automne dernier, un procès emblématique, et vous allez nous aider à comprendre tout ce qui s'y est joué. Ce que vous dites, c'est que les procès ne suffiront jamais, que la justice ne peut pas apporter toutes les réponses et encore moins changer la société.
Oui, c'est vrai, c'est ce que j'ai trouvé un peu déprimant dans ce procès. Bon, je le savais de manière théorique, moi je suis philosophe, je passe beaucoup de temps dans des bibliothèques, je lis beaucoup de livres et d'articles de recherche, mais dans ce tribunal, je l'ai vécu de manière très violente parce que, en fait, en raison du côté très ordinaire de ces types-là. Donc, à l'exception, disons, de Dominique Pellicot, qui est quand même probablement un des grands criminels de la fin du XXe siècle et du début du XXIe siècle, mais les 50 types qui sont jugés avec lui sont des types normaux, sont des types qui ressemblent à votre frère, à votre mari, à votre père, à votre grand-père, à votre petit-neveu. Ils n'ont pas grand-chose de spécial. Et on se dit, si Dominique Pellicot y trouve 70 types, puisqu'il y en a 20 qui n'ont pas été identifiés, qui vivent dans un rayon de 25 km de chez lui et qui sont prêts à venir le jour même violer sa femme, c'est daté.
Et qui pour certains viennent plusieurs fois.
On voit mal comment faire des procès de plusieurs mois à chaque fois et avec les moyens que ça demande va réussir à endiguer le phénomène. Et donc c'est vrai qu'il y a un rapport comme ça entre la lourdeur du procès pénal qui est justifié hein, et l'immense prévalence des violences sexuelles qui me paraît ne pas fonctionner ensemble.
C'est à la fois donc un grand procès, on va dire, sur le mal et c'est un procès ordinaire.
Je ne sais même pas si c'est un grand procès sur le mal. Le courage de Gisèle Pellicot en a fait un grand procès sur le mal parce qu'on a pu voir des choses auxquels, en général, on n'a pas accès à cause du huis clos. Mais c'est assez banal, ce qui se passe. Mais je voudrais tout de même, très brièvement, revenir sur... parce que je ne cesse d'y penser, sur l'extrait du reportage de Jean-Philippe Demieux qu'on a entendu juste avant. C'est très intéressant qu'il ne cesse de parler d'images intimes. Parce que, justement, c'est ça qui...
Ce sont des images criminelles et d'un crime aussi.
Louis, oui, il n'y a pas d'intimité, en fait. Non. C'est l'intimité, c'est quand même l'idée de quelque chose qui se passe entre deux personnes qu'ils construisent ensemble, etc. Alors, ce qui est intime, c'est qu'on rentre dans la chambre des Pellicots.
Ben oui.
Oui, mais à partir du moment où ces autres hommes rentrent dans la chambre des Pellicots, ça n'est plus la sphère privée. Ça devient, et la vidéo fait de ces images précisément pas des images intimes. C'est des images extrêmement violentes, extrêmement choquantes, mais même au moment même où on dit intime, on en dit quelque chose déjà d'un peu joli. Et pour moi, c'est vraiment un enjeu, et c'est pour ça que ça m'intéressait que Louise Schoenbierre soit là aujourd'hui aussi, c'est comment on écrit ça. La sexualité, quand elle n'est pas consentie et quand elle ne doit pas être érotique.
Louis Schoenbierre.
Mais moi, je partage complètement avec Manon Garcia la tristesse de l'idée qu'effectivement, ce n'est pas un procès qui va régler cette histoire, puisqu'en fait, potentiellement, Mazan aurait pu se trouver partout en France. Et c'est-à-dire que potentiellement, aujourd'hui, partout en France, on trouve à 50 km des hommes prêts à violer. Et donc, qu'est-ce qu'on fait de tous ceux qui ne l'ont pas fait là, mais qui pourrait le faire. Enfin, bien sûr, il y a la nécessité de ce procès, et comme vous le disiez, c'est vraiment le courage de Gisèle Pellicot qu'on a fait quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire, et aussi le fait, je pense, qu'il y ait eu ces preuves, parce que le propre des procès, justement, pour violences sexuelles et pour viol, c'est qu'il n'y a pas de preuves, et que c'est parole contre parole, et qu'en fait, la présomption d'innocence est toujours, en gros, une présomption de culpabilité, de mensonge pour les victimes, en gros. C'est-à-dire qu'on va toujours soupçonner les victimes de mentir et d'inventer quelque chose. Donc, je pense que c'est ça qui était très fort et qu'elle a donné. Mais ce que vous dites, Manon, dans votre livre, c'est aussi que malgré ces vidéos et malgré ces preuves, on voit bien que ces hommes ne sont pas du tout capables de dire « j'ai violé cette femme ». Et ça, moi, je pense que c'est aujourd'hui le véritable problème. Mais je relisais King Kong Theory le jour, et je pense qu'il faut le relire tous
de
les
Virginie
6 mois.
Dépend.
Oui. Mais en fait, elle disait ce que moi je dis souvent, je dis « on a un problème statistique ». Moi, toutes mes copines autour de moi aujourd'hui reconnaissent avoir été violées. Bon, voilà, toutes mes amies les plus proches, c'est un fait. Moi y compris. Et il n'y a personne dans mon entourage, aucun homme, qui dit « j'ai violé
ouais. ».
Jamais. Ça n'existe pas. Statistiquement, c'est pas possible, puisque aucune de nous, ça s'est passé dans la rue, au hasard, la nuit. Ça n'est pas comme ça que ça arrive. Et donc, j'ai l'impression que, effectivement, qu'est-ce qui va se passer ? Enfin, la question pénale, ok, ces types... Aujourd'hui, ils ont l'impression que, merde, ils se sont fait choper. C'est ça le problème, en fait. Moi, j'ai pas été au procès. J'avais peur que ce soit trop dur psychiquement. Mais voilà, les défenses, on la connaît. D'ailleurs, Manon, vous vous rapportez comment les types se défendent en disant, voilà, il va au Resto du Cœur, mon client. Donc, en fait, on a aussi beaucoup d'hommes.
Ça, là, c'est les avocats, parce qu'il y en a effectivement un qui est au Resto du Cœur, bénévole. Pardon, mais ouais. Il ne s'agit pas, parce que j'imagine qu'il y a des auditeurs qui nous entendent, des hommes, et aussi, ou peut-être aussi des femmes, là, qui se disent qu'il ne s'agit pas de nourrir une haine pour les hommes, et il ne s'agit pas non plus de regretter d'être née femme dans ce qu'on dit en ce moment, dans ce que vous dites. Manon Garcia. Mais chaque homme n'est pas coupable
en
soi.
Non, mais je suis toujours tentée de rassurer les hommes en disant « je ne vous déteste pas, ce n'est pas vous particulièrement, c'est les hommes au sens du groupe social des hommes, etc. » Mais Louise a raison sur le fait qu'il y a un problème statistique, c'est-à-dire que moi, je connais très peu d'hommes. Enfin, là, ça change un tout petit peu parfois, mais je connais très peu d'hommes qui disent « oui, ça me concerne, oui, je crois que j'ai fait des trucs... »
Moi, j'en connais. Hein.
Pas cool. Voilà. Non, mais je dis que je pense que ça change un peu, mais enfin, la proportion de types qui disent ça par rapport à la proportion de femmes qui ont vécu des choses insoutenables, il y a un truc qui colle pas. Et je trouve que c'est inquiétant qu'on passe tant de temps, enfin moi j'en passe beaucoup, je pense que Louise elle en passe un peu moins que moi, mais à rassurer les hommes sur le fait qu'on ne les déteste pas ou qu'on ne déteste pas notre féminité ou qu'on est prête à les aimer, prête à vivre avec eux, etc. Oui, c'est vrai, moi de fait je suis hétérosexuelle, je vis avec un homme, j'ai plein d'hommes dans mon entourage, je vis avec des hommes et je ne les déteste pas, mais à un moment... Il faut quand même prendre au sérieux cette question des violences sexistes et sexuelles et se dire, bon, bah, si on prend ensemble les violences sexuelles, les violences conjugales, les violences faites aux enfants, etc., les hommes font de la vie des femmes et des enfants des cauchemars. Et bien sûr qu'il y a des hommes qui ne le font pas. Mais même parmi ceux qui ne le font pas, il y en a plein qui ne font rien, qui ne se lèvent pas contre les injustices qui sont commises au quotidien, qui font avec, qui sont un peu complices, mais pas trop, etc. Et moi, c'est à ces hommes-là que j'ai envie de m'adresser en disant « Bon, on attend que vous fassiez des trucs ».
La honte doit changer de camp. Merci Gisèle Pellico, écrit sur le réseau social X le chancelier allemand Olaf Scholz. Quelle dignité, salue de son côté Pedro Sanchez, le premier ministre espagnol, à la tête d'un pays connu pour être très en avance dans la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Après avoir fait la une du Vogue allemand le mois dernier, Gisèle Pellico fait aujourd'hui la une de nombreux médias étrangers. Gisèle Pellico incarne le visage du courage, titre le New York Times, une femme devenue le symbole de la force féminine dans le monde entier, ajoute le journal américain. Passée de victime anonyme à icône féministe, Gisèle Pellico a exhorté les femmes à ne pas rester silencieuses, commente le quotidien brésilien O Globo. Son procès, historique, couvert par 180 médias, dont 86 étrangers, a ouvert un débat en France, réagit le journal italien La Repubblica, éveillé les consciences, entamé une réflexion sur la culture du viol et sur un patriarcat sous-jacent qui traverse encore la société.
Le patriarcat sous-jacent, Lucien Bia, vous êtes d'accord avec ça? Est-ce qu'on parle de patriarcat? Est-ce qu'on parle de domination masculine? À quel moment on parle de masculinité? À quel autre on peut parler de virilité? Tout ça sont quand même des questions qui devraient traverser tout le monde, y compris évidemment les hommes.
Oui, alors moi, je pense que c'est plutôt Manon qui sera à même de répondre sur ces questions de vocabulaire.
Je suis sûre que vous avez quand même une idée.
Oui, non, mais sur les questions de vocabulaire, en tout cas, moi je constate une violence qui circule, un continuum de violence extrême. C'est pour ça que pour moi, ce qui s'est passé à Mazan n'a rien d'extraordinaire, en fait, et s'inscrit parfaitement dans un continuum très banal de violence, et j'ai l'impression que c'est ça dont il faut prendre en compte. Ça se joue tout le temps partout, et c'est vraiment un système qui s'auto-justifie tout le temps et qui se reproduit. Moi, j'arrive pas à comprendre comment ces hommes peuvent aller violer une femme sans se dire qu'en fait, en faisant ça, ils autorisent d'autres hommes à le faire à leur fille, à leur femme. En fait, c'est vraiment ça qui me pose problème, cette sorte d'hypocrisie et le fait qu'à un moment, il faut juste regarder les choses en face. Donc oui, il y a cette violence qui est partout, qui se joue parfois dans des très petits gestes. Et c'est pour ça, je pense, le problème, c'est qu'effectivement, tous les hommes ne sont pas prêts à aller violer une femme, c'est daté. Ok, peut-être, tous les hommes, pas. Mais néanmoins, je pense que tous les hommes, parce que c'est la construction ainsi, ont eu à un moment donné dans leur vie des mots, des gestes, des choses qui faisaient partie de ce continuum de violence. Et en fait, on a juste envie, et moi je ne comprends pas ce qu'il en coûte, de la même manière que, en tant que jeune femme, ça a été un processus de reconnaître qu'on a été violée. Parce qu'on a été construite en ne pensant pas les violences sexuelles comme des viols. Et donc à un moment de dire, voilà, de pouvoir s'avancer en disant j'ai été violée, ce qui était extrêmement honteux. Je ne comprends pas pourquoi en fait les hommes n'arrivent pas à faire ce pas de côté et dire j'ai participé à cette violence-là, je le reconnais, j'ai été, et à partir de là on peut changer. Voilà, c'est simplement, il n'y a pas d'essentialisation là-dedans. C'est-à-dire quand on dit même que beaucoup d'hommes sont des violeurs en puissance, il n'y a pas d'essentialisation, il ne s'agit pas de dire à partir d'un moment où un homme est capable de reconnaître que effectivement il y a eu des actes qui ont été de l'ordre des violences sexuelles, du viol, mais déjà ça peut changer. Déjà il y a quelque chose qui se décide. Après sur l'usage des termes, oui, c'est le patriarcat et la domination d'un regard hétéro-patriarcal qui fait que et qui est intériorisé d'ailleurs en tant que femme complètement. Et ça c'est aussi intéressant d'aller l'interroger. C'est-à-dire comment nous on peut justifier, diminuer des violences.
Manon Garcia.
Oui, moi pendant longtemps, j'étais comme beaucoup de gens un peu gênée par le concept de patriarcat. Ça fait très Gouine Rouge, féministe radicale, etc. Et je vois bien comme ça braque les gens. Ça braque les gens notamment parce que ça fait un peu Illuminati, le patriarcat. Ça fait un peu comme si les hommes s'asseyaient autour d'une table pour conspirer contre les femmes. Et on a envie de dire, bah, évidemment, que les hommes ne s'asseyent pas autour d'une table pour conspirer contre les femmes. Mais justement, ce qui est très angoissant dans le procès Pellicot et dans d'autres choses qu'il a mises au jour, notamment autour de la soumission chimique, c'est qu'il y a quand même une forme de conspiration. Là, il y a ces journalistes allemands qui ont mis au jour, pendant la durée du procès, une boucle télégramme de 70 000 hommes qui s'échangent des recettes de soumission chimique et des photos de leurs femmes qu'ils violent, etc. Ça fait beaucoup d'hommes qui s'entendent entre eux pour faire de la vie des femmes un cauchemar. Donc ça, je pense que c'est quand même... il y a aussi des hommes qui activement participent au patriarcat. Mais de manière générale, le terme de patriarcat, ce qu'il cherche à mettre en lumière, c'est le fait que nous vivons dans un système social qui organise la supériorité des hommes sur les femmes dans plein de contextes différents et qui organise le fait que les femmes servent les hommes, donc sous forme de travail de care ou sous forme de sexe, sous forme de plein de choses. Mais ce que je trouve intéressant dans ce que disait Louise Schoenbier, enfin, c'est que dans ce procès, il y a eu ce moment, un des accusés raconte que le lendemain, il raconte à des copains ce qu'il a fait et que ses copains lui disent « Mais mec, c'était un viol !» Et donc, au moment où il raconte ça, dans la salle d'audience, on se dit « Ah, ouf ! Enfin, un qui a compris la gravité grâce à ses copains, etc. » Et en même temps, moi, j'y ai réfléchi après, je me suis dit « Mais imaginons deux secondes, si ce type avait dit à ses copains « Oui, hier, j'ai coupé un bras avec une scie sauteuse à un type », ses copains lui auraient pas dit « Mec, c'est chaud, c'est un meurtre ou c'est une tentative de meurtre. » Et tout ça, il serait sans doute allé à la police, ça aurait interrompu la conversation, ça aurait fait... Enfin, il se serait passé quelque chose. Et en fait, là, on comprend que une forme de sociabilité des hommes et de normalisation des violences sexuelles fait que quelqu'un peut dire à ses copains qu'il a commis un viol la veille et un viol sur une femme qu'il ne connaît pas, etc. Donc un viol qui ressemble plus que d'habitude au viol classique d'une inconnue par un inconnu, etc. Et qu'on passe à autre chose. Et ça, c'est quand même une question de pourquoi. Pourquoi ça compte pas, en fait? Et pourquoi les violences sexuelles aussi faites aux enfants ne comptent pas? Pourquoi c'est ce qu'on voit dans le procès Le Squarneck, comme dans le procès Pellicot, comme dans plein d'autres procès de faits d'inceste, etc. Ben, en fait, les gens savaient. On savait que Le Squarneck, ben, il avait violé sa nièce, et puis que le père de Squarneck, il avait violé aussi une autre nièce, etc. Mais... bon, on se débrouillait, on essayait de tenir un peu ses filles. C'est comme moi, je me souviens quand j'avais travaillé pour la campagne de Ségolène Royal, il y a très longtemps, quand j'étais toute jeune. On m'avait dit, bon, il faut jamais être tout seul dans une pièce avec des SK, hein, ou dans un ascenseur et tout ça. Mais donc, on savait, ils violent des femmes, tout, et c'est pareil dans le monde du cinéma, jamais être toute seule avec Depardieu. Donc, tout le monde le sait. Juste, c'est pas très grave.
Vous écoutez Leur Philo, Manon Garcia et Louise Schoenbier sont nos invités, Gary Jules et Michael Andrews sur France Inter.
All around me are familiar faces, worn out places, worn out faces, bright and early for the daily races, going nowhere, going nowhere. Tears are filling up their glasses. No expression, no expression. Hide my head, I wanna drown my sorrow. No tomorrow, no tomorrow. And I find it kinda funny, I find it kinda sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to take. When people run in circles, it's a very, very mad world. Mad world. Children waiting for the day they child should sit and listen
teacher tell me what's my lesson? Look right through me, look right through me. And I find it kind of funny, I find it kind of sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to take. The people run in circles, it's a very, very
Manon Garcia et Louis Chenevière sont nos invités. Manon Garcia pour Vivre avec les hommes et Louis Chenevière pour Britney notamment, parce qu'il y a aussi d'autres livres dont on va parler.
Ça remonte à la nuit des temps. Il y a eu un moment dans la nuit des temps où la force physique, ça comptait énormément. Les plus forts se sont appropriés les droits, le pouvoir, de manière à avoir également de la prééminence économique, grossièrement pour être ceux qui étaient toujours sûrs de manger. C'était très visible en Chine, par exemple, où il y avait une grande pauvreté, et on laissait mourir, si eux non, on tuait les petites filles, et on empêchait les femmes de participer à la production, de manière à ce que l'homme ait vraiment tout en main. Mais il est bien évident que d'époque en époque, il y a eu toujours une volonté des hommes de prendre le pouvoir. Je n'en citerai qu'un exemple. Au Moyen-Âge, et dans les siècles, enfin, à la Renaissance, les femmes avaient beaucoup de pouvoir comme médecins. Eh bien, la médecine leur a été prise des mains par les hommes. Et ensuite, alors, au XVIIIe, au XIXe siècle, il y a des statuts faits par les hommes qui interdisent rigoureusement, sous peine de prison, d'amende, etc., aux femmes d'exercer la médecine si elles n'ont pas suivi certaines écoles auxquelles, par-dessus le marché, on les acceptait pas. Et maintenant, cette volonté n'est peut-être plus de prendre, mais c'est en tout cas une volonté très 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 forte de garder. Il y a des barrages qui se font partout lorsque les femmes veulent accéder à certaines qualifications ou à certains pouvoirs.
C'était Simone de Beauvoir, une archivina qui date de 1975. Elle était au micro de Jean-Louis Servan-Schreiber. Tout est une question de pouvoir. Le pouvoir du père sur sa femme, du père sur sa famille, de l'homme sur sa femme, c'est aussi un pouvoir finalement politique. Madame Garcia.
Oui, et c'est ce que j'essaye de montrer dans le livre aussi, c'est qu'il y a une histoire philosophique et politique de ce qu'on entend dans ce procès Pellico. C'est-à-dire que on a entendu beaucoup d'accusés qui disent mais le mari était d'accord, ou il y a cette phrase atroce de c'est sa maison, sa chambre, son lit, sa femme. Et en fait, tout ça, c'est des héritages d'une longue histoire qui considère que l'homme possède sa famille comme on possède des meubles. Et je pense qu'on a tendance à mettre cette histoire, à la voir comme vraiment du passé, très passé. Et c'est pour ça que je dis dans le livre, il faut se souvenir que les époux Pellico ont 32 ans. Donc ils sont déjà mariés depuis plus de 10 ans, donc depuis 11 ans je crois, au moment où passe la loi qui dit que le viol entre époux est interdit. Enfin, où passe d'abord la jurisprudence qui interdit le viol entre époux. Donc il faut imaginer que pendant les premiers 11 ans de leur mariage, ils pouvaient la violer à loisir, ça n'était pas interdit. Donc tous ces changements-là, ils sont très nouveaux. Ça fait pas du tout longtemps qu'on pense qu'un homme ne possède pas sa femme comme il possède une commode.
Est-ce que vous diriez qu'au fond, les désirs, que ce soit des hommes, mais aussi évidemment des femmes, sont politiques, qui sont façonnés par la société?
Bah évidemment, mais je reviens encore à Despentes qui dit que le viol c'est un projet politique en fait, c'est pas quelque chose d'anodin. Ce que vous dites tout à l'heure Manon Garcia, c'est que c'est complètement intégré dans une forme de normalité. C'est un projet politique qui vise, et elle dit, c'est la guerre civile des sexes. Voilà, je pense que effectivement nos désirs sont parfaitement façonnés, et en tant que femme, on apprend aussi à jouir, en tout cas fantasmatiquement, de sa propre soumission, de n'être qu'un objet. Et ça, je pense qu'on en parlera peut-être, mais avec Nelly Arcand, c'est très net, puisque elle expose justement dans son livre le fait que elle-même n'a pas de sexualité, en fait n'a pas de désir propre, si ce n'est d'être un objet dans le système désirant de ces hommes, et qu'elle se réduit à ça.
Alors ça, c'est très intéressant, Nelly Arcand, parce que vous en parlez dans ce livre pour Britney, où vous racontez d'abord, finalement, l'admiration que vous aviez pour Britney Spears quand vous étiez toute petite, comme, c'était...
Comme moi.
C'était, c'est normal, c'est tout à fait... à la limite, c'est banal, presque. Enfin bon, puis après, vous vous en êtes un petit peu... un petit peu éloigné. Puis à Britney Spears, il est arrivé une histoire tout à fait horrible. Mais Nelly Arcand, elle est moins connue. Dites-nous un modèle, et puis après, je voudrais bien qu'on l'entende.
Ouais, avec plaisir. Nelly Arcand, elle a publié deux romans, deux textes absolument sublimes au début du XXIe siècle.
Donc, grande écrivaine.
Grande écrivaine d'abord. Moi, j'avais 13 ans à ce moment-là, à peu près, ou non, moins peut-être. Enfin, j'étais petite. Mais je sais qu'à ce moment-là, je ne savais pas que les femmes écrivaient des livres. Et je l'ai su que très tard, en fait. Or, à ce moment-là, il y a cette femme qui publie ses livres et qui sont, pour moi, deux textes qui vont très, très loin dans la manière de disséquer, justement, ce désir hétérosexuel, patriarcal, et de le mettre en scène.
Avec des titres incroyables.
Bah, folle et putain. Et c'est les deux possibles qui guettent les femmes qui se comportent pas comme il faut, en gros. Et c'est notre être violable qui est le fait d'être une femme. Et c'est aussi ça qu'on apprend très tôt aux petites filles. Enfin, voilà, on en parlera, mais elle a écrit ces deux livres sublimes, elle finit par se suicider d'être une femme, hein. Notamment 2 ans après une émission de télé où elle a porté une robe trop décolletée. Le lendemain, la presse ne parlait que de ça et non pas de ses livres dans lesquels elle parle de violences sexuelles. 2 ans après ça, elle finit par se suicider.
Mais justement, on va l'entendre au micro de Thierry Ardisson. C'était donc au moment de la sortie de cette autofiction qu'elle a écrite donc, quand elle avait 26 ans.
C'est toujours un peu ce même rapport au corps dans l'anorexie qu'on retrouve aussi dans la prostitution où tout à coup c'est le centre, il y a que ça qui compte et c'est par ce corps qu'on se fait aimer et bon, ça... Dans la vie, on peut faire des choix qui viennent réparer ou répondre à des énigmes qui sont passées dans la famille, dans l'enfance. Peut-être que se prostituer, c'est une façon d'avoir pour soi le désir du plus grand nombre et de s'assurer une survie.
La prostitution comme une survie, Lucien Bia.
Nelly Arcand, moi j'adore l'entendre. Elle explique très bien que le devenir putain que elle décide d'embrasser, il lui est tombé dessus toute petite fille, il lui est tombé dessus à la sortie de l'école quand elle portait une petite jupe et elle lui est tombée dessus par les regards que les hommes ont posés sur elle. Et en fait, elle fait quelque chose de scandaleux, c'est qu'elle se fait payer pour finalement ce qui arrive à Gisèle Pélicot, enfin je veux dire à l'extrême, mais en tout cas pour une sexualité que les femmes dans le contrat de mariage n'ont jamais demandé à se faire payer. Donc elle reprend le pouvoir, la prostitution c'est ça hein, pour elle, c'est de reprendre le pouvoir sur un devenir qu'on lui a assigné et qui est en fait le devenir de toutes les femmes. Et ça, je trouve ça très fort parce qu'elle nous force vraiment à nous interroger très loin sur nos propres désirs et sur le fait de, comme le fait Gisèle Pélicot, c'est-à-dire le fait, bon, là il y a le cas de la soumission chimique, c'est assez extrême dans la mise en scène, mais je veux dire, le fait de faire l'amour sans même le désirer, sans savoir ce qu'on désire, en s'abandonnant, en le faisant parce que, enfin, en tout cas, je pense que c'est en tant que femme des questions qui nous ont traversées, constituées. En fait, quand on lit Nelly Arcand, quand on lit Virginie Despentes, tout ça, tout est déjà dit sur ce système-là qui aboutit à ce que fait Pélicot à Gisèle, en fait. J'ai l'impression que c'est déjà là. Donc moi, j'ai pas été surprise, en fait, par la révélation de ça. Enfin, je veux dire, tout le monde était là, « Oh mon Dieu, comment c'est possible ?» Moi, j'étais là, « Bah oui, en fait, c'est possible. »
Oui, je Manon pense Garcia. Que c'est vrai que Nelly Arcand, elle est vraiment... en avance sur le discours et en même temps ces discours-là, je veux dire quand on revient à Simone de Beauvoir et quand on revient aux féministes radicales comme Shulamith Firestone, etc. des années 70, en fait les femmes s'épuisent dans le désert à dire à chaque génération la même histoire et on essaye de le dire de plein de façons différentes. Au fond, beaucoup de ce que vient de dire Louise Schoenbière, moi j'ai essayé de l'analyser dans mes travaux sur la soumission et sur le consentement sexuel. Donc, mon premier livre, On n'est pas soumise, on le devient, c'est vraiment là-dessus et c'est vraiment sur comment on est transformé en être soumis. Et ce qui résonne pour moi très fort dans ce que vient de dire Nelly Arcand, enfin, dans ce qu'on vient d'entendre, c'est cette question du choix. C'est qu'au fond, on assigne toujours aux femmes, enfin, on fait toujours comme si les femmes faisaient des choix quand leur situation leur nuit. Parce qu'on dit bah, elles avaient qu'à vouloir autre chose, elles avaient qu'à vouloir être libres, elles avaient qu'à vouloir être des bonnes mères de famille, etc. Et Et on fait comme si elles avaient le choix entre différentes destinées, comme on a le choix entre un t-shirt blanc ou un t-shirt rouge, ou du thé ou du café. Et en vérité, bon, moi, c'est ce que j'aime beaucoup chez Simone de Beauvoir, c'est que je trouve qu'elle nous aide vraiment à penser le fait que les femmes ont un destin tout tracé et qu'on peut décider de ne pas suivre ce chemin, mais que ça coûte énormément,
prix,
et que la soumission est le sentier dessiné pour les femmes. Et j'ai trouvé, pour ma part, que le procès Pellico était très intéressant sur cette question de la soumission, dans son lien à la soumission chimique. Parce qu'au fond, qu'est-ce qui arrive à Gisèle Pellico ? C'est qu'un jour, elle prend sa retraite, elle part vivre dans le Midi avec son mari, et ça veut dire deux choses. Premièrement, qu'elle monte à Paris régulièrement s'occuper de ses petits-enfants pendant les vacances scolaires. Donc, elle abandonne, entre guillemets, son mari pendant deux semaines par-ci, par-là. Donc, il se retrouve tout seul et abandonné. Et elle arrive à un moment de sa vie où elle lui refuse certaines pratiques sexuelles. Elle dit, écoute, en fait, moi, ça m'a jamais tenté. Maintenant, ça va. Et elle lui dit, d'ailleurs, qu'il peut aller voir ailleurs s'il veut, qu'elle comprend qu'il ait ses désirs là, qu'elle le comprend très bien, que juste, elle n'a pas envie de le faire. En fait, elle refuse la soumission à ce moment-là. Et lui, il dit, bah, si elle ne la choisit pas d'elle-même, cette soumission, eh bien, je vais mettre du Temesta dans son dîner tous les soirs.
Et il la traite d'ailleurs de femme insoumise.
Oui, alors c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on sent que même lui, il est ambivalent. Il dit tout le temps que ce qu'il aimait chez elle, c'est qu'à la différence de sa mère, c'était une femme insoumise, etc. Mais à sa dernière prise de parole au procès, quand on lui demande, bon, est-ce que vous avez quelque chose à nous dire pour nous expliquer ce que vous avez fait ? Il dit, j'ai bien réfléchi, je crois que mon mobile, c'était de soumettre une femme insoumise. C'est exactement ce qu'il fait avec le Temesta. C'est qu'au fond, il aimait que Gisèle soit libre, etc. À condition, et parce que elle se soumettait à lui alors même qu'elle était insoumise. Mais du moment où elle a été vraiment insoumise, il a décidé qu'il allait falloir passer aux médicaments. Donc ça montre bien qu'il n'y a pas de choix. C'est-à-dire que le choix, c'est ou bien on choisit librement de se soumettre, ou bien on a du Temesta dans son dîner.
Je maintiens que je suis un violeur, comme les autres accusés dans cette salle. Ils ne peuvent pas dire le contraire. Je suis coupable de ce que j'ai fait à ma femme et du mal que tout cela a fait à mes enfants, à mes petits-enfants. Je demande pardon, même s'il n'y a pas de pardon possible. Lâche assez rapidement Dominique Pellico depuis son fauteuil. Sa voix est assez faible, mais il n'est pas hésitant. Parfois, il pleure, se mouche. Le président, dans un interrogatoire dynamique, fait venir son ex-épouse Gisèle Pellico à la barre. Tous deux se regardent et lui se lance. « T'as été merveilleuse et moi, j'ai été à côté de la plaque. » Les mots sont faibles. Il tente de se justifier en évoquant aussi son enfance difficile, un père violent. Les psychologues ont parlé d'un climat incestueux. Dominique Pellico rappelle deux épisodes. À 9 ans, il raconte avoir été agressé sexuellement par un infirmier alors qu'il était hospitalisé après une blessure. Et puis, confie-t-il, à 14 ans, j'étais apprenti sur un chantier. Les ouvriers ont violé collectivement une petite jeune fille handicapée. Ils m'ont attrapé par le col pour me coller le nez dans son sexe. Ça m'a marqué énormément. Tous ces chocs et traumas de ma jeunesse ont fait malheureusement ce que je suis devenue. Il termine, on ne naît pas pervers, on le devient.
Voilà, je ne sais pas si ça vaut un commentaire, mais en tout cas, beaucoup des hommes inculpés, dont Dominique Pellico, ont subi eux-mêmes des violences. Est-ce que ça peut constituer, est-ce que ça a constitué une circonstance atténuante ?
En fait, circonstance atténuante, ça n'est plus un terme qu'on utilise juridiquement. Donc, on peut se poser la question sur le plan moral, au fond, est-ce que ça les rend moins responsables ? Donc, c'est moins de la majorité des hommes, c'est, je crois, 20% à peu près des accusés dont on découvre au fil du procès qu'ils ont été victimes de violences sexuelles. C'est intéressant parce qu'en fait, on en parle comme si ça voulait dire qu'ils sont bien plus que la moyenne victimes de violences sexuelles, etc. Mais ça correspond à peu près, c'est un peu au-dessus de ce qu'on pense, de ce que les chercheurs pensent être le taux de victimes de violences sexuelles chez les enfants, qui est entre 12 et 15% à peu près. Par ailleurs, ces hommes-là n'avaient jamais parlé, qu'ils parlent à l'occasion de ce procès dans l'espoir que ça constitue une circonstance atténuante ou parce que tout d'un coup ils ont un endroit pour parler. On peut se dire, en fait, si ça se trouve, si tous les hommes avaient moins de barrières à parler des violences dont ils ont été victimes, si ça se trouve, les chiffres seraient plutôt aux alentours de 20%. Et je pense qu'il faut quand même se méfier de cette question de la circonstance atténuante, parce que d'un côté, moi-même, je l'ai ressenti, c'est très tentant de se dire, bon, au fond, ils ne font que reproduire. Et on entend là, Dominique Pellico, le vocabulaire du trauma, cette façon dont il y a une réutilisation de ces outils qui sont censés être des outils anti-oppressifs, au fond, pour l'oppression, quoi. Mais Les femmes sont beaucoup plus victimes de violences sexuelles pendant l'enfance et aucune ne devient violeuse en série. Donc il y a une question là de se dire ce que les psychiatres et les psychologues appellent le cycle de la violence, donc que des anciennes victimes deviennent des personnes violentes. Ça n'existe que chez les hommes, donc, et vraiment pas chez tous les hommes. Mmh. Donc il faut faire attention de ne pas y voir une façon de les exonérer. Et là, ce qu'on vient d'entendre de Dominique Pellicot, je pense que c'est très important de se souvenir que Dominique Pellicot est un grand pervers. Ça, ce qu'on entend là, c'est une construction perverse absolument démente, comme le Squarneck. Maintenant, je trouve que maintenant qu'on a vu le Squarneck faire la même chose, de dire « je demande pardon, je suis un très très grand pervers », et d'ailleurs ils avaient tout bien collectionné, tout bien compilé, etc., on voit que c'est des hommes qui jouissent de leur perversion et qui font leurs excuses et leurs mea culpa comme une partie de leur système de perversion. Donc il ne faut pas y voir la vérité avec un grand V.
Aussi qu'on leur a donné le langage pour penser ça, pour se représenter soi-même, enfin même le mot pervers, etc., qu'ils arrivent à mettre sur ce qui serait un trouble. Enfin, en fait, ce côté trouble psy de cette perversion, effectivement, en fait, quand elle est aussi systématique, moi, pour moi, ça marche pas, et c'est assez insupportable d'ailleurs d'entendre ce type de justification-là. Et on sent que c'est quand même des discours très travaillés, très préparés aussi.
Mais ce que vous écrivez, Manon Garcia, qui est intéressant aussi, c'est que vous dites que faire de Dominique Pellicot un monstre, c'est renoncer à voir comment un homme peut faire ce qu'il a fait. Et là, est-ce qu'on peut effectuer, parce que je vais vous parler de quelqu'un que vous connaissez bien, qui est Hannah Arendt, est-ce qu'on peut faire le parallèle avec ce que Hannah Arendt a dit au sujet d'Eichmann?
Oui, alors c'est intéressant parce que j'ai très peu de mal à faire un parallèle entre Eichmann et les 50 autres, mais entre Eichmann et Dominique Pellicot, ça me paraît un peu plus difficile parce que je pense que Dominique Pellicot est beaucoup plus introspectif et beaucoup plus méchant que Eichmann.
Mais alors avec les 50 autres.
Voilà, avec les 50 autres, ce qui est intéressant, c'est qu'ils n'ont rien à dire de ce qu'ils ont fait. Et que certains sont des types bien. Et je trouve que c'est intéressant, je parle dans le livre de cette anecdote géniale du procès d'Eichmann à Jérusalem, où Hannah Arendt raconte que le policier israélien qui a la charge d'Eichmann et de s'occuper de lui pendant la durée du procès, lui a prêté Lolita de Nabokov. Eichmann en a été vraiment scandalisé en disant « Mais oh, qu'est-ce que c'est que ce livre pervers que vous me donnez de vraiment de ces gens dégueulasses ?» Alors que bon, je veux dire, Lolita est... Effectivement, on peut le voir comme un livre très pervers, même si moi c'est un livre que je trouve extrêmement intéressant. Mais c'est quand même bien moins pire que d'organiser le meurtre de 5 millions de juifs. Donc il y a un truc comme ça où il se place aussi les hommes du procès en bons pères de famille qui savent, qui ont des vraies valeurs. Ils parlent beaucoup de leurs valeurs, de leurs femmes, de leurs enfants.
Beaucoup y penser au moment où ils ont commis l'acte, hein, parce que c'est quand même des familles détruites aussi de ce côté-là.
Oui, alors ça c'est un autre argument de mon livre qui est de dire au fond, ces types-là, ils n'ont pas aimé Gisèle Pellicot, mais ils l'ont détestée, ils l'ont traitée comme elle dit elle-même, comme un sac poubelle, mais ils n'ont aimé aucune des femmes de leur vie. Parce que, au fond, à aucun moment, ils se sont dit, si j'y vais, ma femme va devoir élever les enfants toute seule, ma mère va devoir aller au parloir, elles vont être couvertes de honte de ce que j'ai fait. Les femmes de leur vie n'ont pas existé.
Barbara, le bourreau.
Tendu de crêpes au crépuscule, flanqué d'un grand noir majuscule, au zénith profond de minuit, il avance dedans la vie. Le bourreau, le bourreau. Moi je le nargue lentement, comme un jour d'hiver au printemps, comme la toute dernière gelée sur l'avant-garde de l'été. Car moi je vis comme un éclat qui en sait peu, qui ne sait pas. Car moi je vis comme un éclat de feu d'amour en feu de joie. Et tant pis si de temps en temps il neige un peu sur mes printemps, je sais bien que certains matins il y a des fleurs de chagrin. Flanqué de son M majuscule, pendu de crêpes au crépuscule, au zénith profond de mes nuits, entre dans ma vie. Le bourreau, il connaît très bien son chemin. Tous les chiens lui lèchent la main, il connaît très bien son chemin. Tous les chiens lui lèchent la main. Je vis comme un printemps qui sait très bien qui prend son temps. Mais moi je vis en attendant le temps qu'il me reste de temps. Et bien sûr que de temps en temps il a neigé sur mes printemps. Mais je n'ai pas dans mon jardin que des fleurs couleur de chagrin. Quand se pose le crépuscule, vêtu d'un grand noir majuscule, ganté d'un velours noir qui luit, moi je m'en vais vivre ma vie. Sans bourreau, sans bourreau, tout en le narguant lentement, j'aurais cueilli tous mes printemps, j'aurais vécu d'avoir aimé, j'aurais tout pris de partager. Venir au crépuscule, flanqué de son M majuscule, au dernier souffle de ma vie. Il ne prendra qu'un corps sans vie, il ne prendra qu'un corps sans vie, au dernier souffle de ma vie. Le bourreau, le bourreau.
La députée Marie-Charlotte Garin.
Ce qui est intéressant avec le procès des agresseurs de Gisèle Pélicot, c'est que ça remet la question du consentement au cœur, puisque la plupart des accusés disent « mais on savait pas qu'elle n'était pas consentante ». Et en changeant la loi, on dit que ça, c'est plus possible en fait de tenir ce genre de propos. Dans un procès, ce qu'on appelle la charge de la preuve, elle revient toujours au procureur, donc au ministère public. Et là, nous, ce qu'on souhaite faire, c'est donner un outil supplémentaire au juge qui va pouvoir interroger l'accusé et lui dire « quelles mesures raisonnables vous avez prises ?» pour vous assurer du consentement de la victime. Aujourd'hui, on s'est très cadré avec les quatre critères qui sont la menace, la contrainte, la violence et la surprise, qui encadrent un certain nombre de cas, mais pas tous les cas, notamment les cas de sidération, les cas d'emprise. Les vulnérabilités sont pas encore aujourd'hui très bien appréciées dans les tribunaux. Et nous, c'est à ça qu'on veut répondre aussi. La plupart des victimes de viol, elles sont souvent dans un état de sidération. Et donc, elles sont pas en capacité de prouver qu'il y a eu contrainte, menace, violence ou surprise.
Lucien Pierre, cet état de sidération ne vous étonnera pas,
non.
Compte tenu de ce que vous avez dit.
Je peux juste, je voudrais quand même préciser quelque chose, c'est que ce qu'on vient d'entendre de Marie-Charlotte Garin, où elle dit il faudrait que les juges puissent demander est-ce que vous vous êtes assuré du consentement, etc. C'est ce qui s'est passé pour chacun des 51 accusés. Donc ce truc de dire le consentement n'est pas au cœur du procès pénal, etc., ce mot de consentement, on l'a entendu des centaines de fois par jour. Cette question a été posée systématiquement. Donc moi, c'est pour ça que je trouve... Enfin, très bien si on ajoute le non-consentement, mais ce mot de consentement est au cœur du procès pénal. Pardon, je vous ai interrompu.
Non, mais surtout, je pense qu'on peut peut-être consentir à quelque chose qui nous annihile profondément aussi. Enfin, je veux dire, non, je pense que la sidération, effectivement, et le fait qu'on n'arrive pas à parler est aussi la raison pour laquelle j'écris et pour laquelle j'écris aussi de la littérature, parce que j'essaye de faire parler justement ce qui se joue dans l'après-sidération. Et on revient à l'idée que c'est pas une question pénale ou que c'est pas une question... Voilà, tous ces mots aussi, victime, coupable, j'ai l'impression qu'ils disent pas grand-chose. Dire « je suis victime de viol », ça, en fait, ça dit pas. Et il faut aussi faire l'hypothèse, peut-être, que les gens ne se rendent pas compte de ce que ça produit dans les subjectivités en termes d'effondrement et en termes de violence. Cette sidération que j'ai envie, effectivement, d'exposer, d'explorer, et comment les subjectivités sont détruites par ça.
Et en se disant que la littérature là-dessus a évidemment un pouvoir, est-ce que la philosophie en a un aussi, Manon Garcia ?
Oui, j'espère. Mais c'est vrai que moi, je me suis retrouvée un peu démunie en étant simple philosophe face au procès Pellicot parce que, enfin, ce qu'on attend généralement de la philosophie, c'est une forme d'objectivité, de distance, etc., de troisième personne du singulier, disons, qui ne permet pas de toucher à la vérité de ce que sont les violences sexuelles. Et donc, c'est pour ça qu'il y a une tradition en philosophie féministe d'utilisation de la première personne dont je me resserre dans le livre. Mais moi, j'ai lu le livre de Louise Schoenvière, je pense, le lendemain du jour où j'ai envoyé le manuscrit de mon livre. J'ai été vraiment stupéfaite et subjuguée parce que je trouve qu'elle arrive justement à travailler la langue d'une manière qui dit quelque chose de ce que ça fait à nos subjectivités et de cette colère-là et de vraiment faire un travail sur la langue pour dire ce que c'est. Et en fait, c'est intéressant parce que on le lit, on se dit « Oh là là, elle est vraiment colère, Louise Schoenvière, etc. » Mais en même temps, enfin, je sais même pas, j'imagine qu'elle est très en colère, mais elle ne fait que décrire ce que ça fait. Moi, quand je lis son livre, quand je lis King Kong Theory, quand je réfléchis sur mon travail, etc., je me dis « C'est étonnant qu'on soit si calme. »
Mais sur la colère, justement, c'est très intéressant parce que vous avez cité Louise Schoenvière à plusieurs reprises Virginie Despentes, qui dit bien qu'elle n'a jamais été autant en colère contre les hommes. C'est une colère que vous faites vôtre.
Oui, bien sûr, mais je pense que la colère est très libératrice parce qu'elle nous autorise aussi à dire et à penser les choses telles qu'elles sont et à plus prendre de pincettes, en fait. Je pense qu'il n'y a pas à prendre de pincettes. On vit dans un pays dans lequel le président peut soutenir Gérard Depardieu à la télé, dire qu'il rend fière la France. Je vois pas pourquoi je prendrais de pincettes, en fait. Parce que quand il fait ça, vraiment, il humilie toutes les victimes de violence et particulièrement cette jeune fille. Mais moi, ce qui m'a aussi choquée dans le procès Pellicot et alors, je sais que c'est la manière dont les femmes se sont avancées à la barre pour défendre leur mari. Les femmes qui arrivent à dire « je n'arriverai pas à dire que mon père est un violeur ». Moi, je suis assez convaincue aujourd'hui qu'en tant que femme, en fait, aussi difficile cela soit, on doit cesser la collaboration. Je vais revenir sur Depardieu. Julie Depardieu, elle va à la télé, elle défend son père. Elle
mais
défend
est-ce
son
qu'il
n'y
a
père.
Pas là ce qu'on peut appeler un conflit de loyauté ?
Je m'en fous, en fait.
Ouais.
Non, mais vraiment. Non, en fait, il y a un moment où ça continue aussi parce que effectivement, ces hommes-là, ils ont... Je comprends que c'est difficile et je veux pas du tout blâmer les femmes dans le procès Pellicot ou leur rajouter une charge. Là n'est pas la question. Mais en fait, quand ces femmes s'avancent à la barre pour défendre leur mari, en fait, elles parlent contre Gisèle. Et c'est aussi comme si on comprenait pas que notre solidarité, elle est avec Gisèle parce qu'en fait, ces femmes-là, ce que disent leurs maris en faisant ça, c'est que d'autres ont le droit de leur faire à elles. MeToo, c'est ça aussi, c'est pas dire qu'on a toutes été victimes comme ça, c'est dire qu'on peut toutes l'être. Et en fait, comment on peut encore soutenir des hommes qui font que, à notre fille, à notre sœur, d'autres hommes peuvent faire ça?
Manon Garcia, vous écrivez à un moment donné, à la fin du livre, que les hommes nous aiment un peu pour que l'on puisse continuer à les aimer.
Oui, alors moi, en fait, paradoxalement, ce procès m'a mise dans un état au-delà de la colère, c'est-à-dire que moi j'ai été quelqu'un d'assez en colère et tout ça, et là ça m'a vraiment, sur le moment, maintenant ça va mieux, mais ça m'a vraiment brisée parce que je me suis dit mais en fait il n'y a rien à sauver, on est tellement loin de l'endroit duquel il faudrait pouvoir partir pour construire un monde ensemble où on s'aime, où on invente un futur harmonieux, etc., où on dit, non, là, il faut que tu t'améliores sur tel et tel truc, et moi je m'améliore, et on travaille ensemble. On est tellement loin de pouvoir réinventer l'amour, pour reprendre le titre de Mona Chollet, que je me suis dit, mais je me trompe, mon optimisme est une erreur, parce que, précisément, en fait, ces hommes-là, comme je disais tout à l'heure, ils en ont eu rien à faire des femmes de leur vie, ils en ont eu rien à faire de Gisèle Pellicot, et même après avoir fait de la prison, après être dans ce procès où ils devraient être terrassés par la honte, quand on voit ces vidéos, elles sont vraiment atroces, etc., ils continuent à fanfaronner, et ils continuent à pas voir le problème, et il y a tout un système qui les aide à ne pas voir le problème. Une partie des avocats de la défense qui ont été encore plus machos que les accusés, disons, on a l'impression que la revendication qui est la nôtre à beaucoup de femmes de dire il faudrait qu'on puisse vivre ensemble dans le monde et que vous nous preniez au sérieux comme des êtres humains avec qui vous partagez le monde, ils trouvent que c'est vraiment hyper bizarre comme idée, quoi. Que c'est vraiment, on n'est vraiment pas du tout là-dessus.
Vivre avec les hommes, réflexion sur le procès Pellicot est publié aux éditions Climat. Merci Manon Garcia.
Merci beaucoup.
Pour Britney, c'est chez POL et c'est signé Louise Schoenvière. Merci à vous.
Merci.